Bonjour à nos auditeurs, au micro Elisabeth Couget. Le sujet de notre émission aujourd'hui est un livre que certains de mes confrères de la presse écrite ont sous-titré « Les nouvelles liaisons dangereuses ». Non mais sérieusement, il s'agit d'un roman intitulé « La vie au fond des yeux » dont personne ne pourrait mieux parler que ses auteurs ou co-auteurs que j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir aujourd'hui dans les studios de Radio Grand Ciel pour notre émission « Histoire d'en savoir plus ». Alors bonjour Hélène, puisque vous êtes la dame, forcément je m'adresse d'abord à vous, Hélène de Vanoise et Manuel Cordouan. Il n'y a pas de deux là, hein? Non, pas de particules. Bienvenue sur nos antennes, et ce n'est pas souvent qu'en présentant un livre, on a la chance d'avoir deux auteurs en même temps. Alors avant de parler du roman « La vie au fond des yeux », je voudrais d'abord vous faire connaître à nos auditeurs et même d'une certaine façon à moi-même, puisque Hélène, je viens de la rencontrer juste dans les couloirs de la radio. Alors on va commencer par Hélène de Vanoise, que les auditeurs du Radio Grand Ciel ne connaissent pas encore. Mais avant toute chose, donc merci d'être venu. Je voulais vous féliciter pour votre joli nom. Alors le prénom, déjà j'adore, c'est un prénom dans ma famille très présente, en plus j'adore ça, ma petite fille, ça s'appelle pareil. Mais est-ce que c'est un pseudo de Vanoise?
C'est mon nom de jeune fille, c'est un nom qui est originaire du Perche, en fait, d'un petit village qui s'appelait Vanoise et qui est devenu Vanoise par allitération au fil des siècles.
Et voilà, c'est ça, et des générations. Mais c'est joli, en plus vous revenez finalement sur vos terres natales.
D'une certaine façon.
En tout cas, c'est très très joli. Hein. Alors, La vie au fond des yeux, à votre premier roman, vous avez écrit avant ou vous avez commencé comme tout le monde, d'en écrire un petit peu ou carrément?
Alors, je me suis toujours amusée à écrire des poèmes, à rédiger de temps en temps des textes un petit peu élaborés, mais je ne m'étais jamais lancée dans l'écriture d'un roman avant que cette idée saugrenue ne nous passe par la tête.
C'est exactement, vous enlevez le mot de ma bouche, je dirais quand même pas très courant. Alors, en écrivant à deux, c'était quand même autre chose que d'écrire toute seule dans sa chambre.
Alors oui, c'est tout à fait autre chose dans la mesure où c'est extrêmement motivant d'écrire à deux, puisque chacun est en attente de ce que l'autre peut écrire et des idées de l'autre. Donc c'est une très bonne façon d'avancer et d'avoir une raison de s'y mettre, même les soirs où on n'est qu'à moitié motivé,
parce qu'on sait que l'autre attend. Exactement.
Voilà.
Bon, ben, on parlera un petit peu de ce que ça comporte comme technique, finalement, l'écriture à deux. Mais je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un métier? Vous faites autre chose dans votre vie ou seulement écrire?
Alors, j'ai une formation d'interprète traductrice. J'ai un petit peu enseigné, un peu fait formation permanente pour les adultes. Mais j'ai essentiellement œuvré dans le cadre associatif, pendant quelques années au Secours catholique, et par la suite j'ai un peu changé de braquet, si on peut dire, en m'intéressant au patrimoine et en adhérant à la principale association de défense du patrimoine française que sont les vieilles maisons françaises, les VMF. Voilà. Et j'ai été déléguée de cette association pour un département pendant quelques années. C'est à cette époque d'ailleurs que j'ai rencontré mon charmant co-écrivain.
Ben voilà exactement la question que j'allais vous poser. J'ai dit, pour écrire à deux et écrire le roman que vous nous présentez aujourd'hui, je suppose qu'il fallait que vous vous connaissiez depuis déjà un certain temps.
Alors,
c'est bien, en tout cas.
Nous nous connaissions depuis un certain temps. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus les dernières années, puisque j'avais de mon côté pris des activités à Paris, toujours dans le cadre des VMF, dont j'étais devenue secrétaire générale. Et donc, nous sommes restés sur une amitié qui avait été établie depuis quelques années et qui nous a permis de travailler à distance, en fait, avec le sentiment de néanmoins nous connaître très bien.
En tout cas, le résultat, on est parfait, tout à fait très agréable, dont on parlera bien sûr. Et on va parler aussi de l'écrivain, je ne veux pas dire l'écrivaine que vous êtes, c'est un peu difficile pour moi. C'est vrai que maintenant, on commence à féminiser tous les mots, mais bon. Enfin bref, je vais plutôt me tourner vers Manuel Cordouan, que, comme je disais tout à l'heure, les auditeurs connaissent déjà, et merci à des nôtres aujourd'hui. Et Je voulais dire qu'il y a environ 18 mois, je vous ai déjà reçu dans ce studio, au même endroit. Cette fois-ci, c'était pour présenter votre dernier ouvrage en solo, bien sûr, La carte maîtresse. Et donc, à ce moment-là, vous avez laissé entendre que dans vos projets, ou enfin, vous étiez déjà peut-être en train de travailler sur ce sujet à deux. C'était déjà été en gestation à ce moment-là.
Alors effectivement, je vais vous faire une confidence. D'abord, c'est en 2009 qu'on s'est rencontrés dans la Nièvre, pour la petite histoire. Mmh. Et effectivement, quand j'écrivais la carte maîtresse, j'étais alors plutôt préfet du Cher, avant de venir en Eure-et-Loire. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Hélène de relire la carte maîtresse. Mmh. Elle m'avait d'ailleurs donné quelques indications précieuses. Et c'est ainsi, effectivement, qu'a germé l'idée d'écrire ensuite véritablement un roman à quatre mains, comme on dit. Mm-hmm. Même si cette idée d'écrire un roman à quatre mains, moi, je l'avais depuis longtemps, pour d'autres raisons.
Mais c'est vraiment très, très intéressant. Mais alors, avant d'écrire La carte maîtresse, vos livres nombreux, hein, qui ont paru déjà, étaient, à mon avis, mais je me trompe peut-être, d'une certaine façon... ça avait un côté un peu autobiographique, parce que j'avais l'impression qu'on a retrouvé peut-être des choses de votre enfance, de votre jeunesse, de votre famille. Et est-ce que maintenant, maintenant que vous avez, j'ai l'impression que avec ce roman-là, vous avez fini de sillonner les traces de votre passé, de votre enfance, de tout ça, ou bien je me trompe, et donc vous allez continuer.
C'est-à-dire que cette écriture à quatre mains m'a apporté deux choses. La première idée, j'avais depuis longtemps la volonté de bien exprimer dans mes romans en général la sensibilité féminine. Mm-hmm. Et entre nous, quel est le meilleur moyen d'exprimer la sensibilité féminine que de donner la parole à une femme?
À part Stefan Zweig, peut-être.
Oui, enfin...
Mais bon, il n'est plus là.
Stefan Zweig, tout le monde n'a peut-être pas le talent de Stefan Zweig, mais en tout cas, c'était une idée que j'avais mais depuis longtemps. Mm-hmm. Depuis longtemps, et effectivement, je me suis dit aussi que, si j'écrivais un livre, un roman, avec quelqu'un d'autre, je m'échapperais, je m'arracherais un peu à ce que vous appelez l'autobiographie, mais alors il faut entendre autobiographie au sens large,
oui,
c'est-à-dire plutôt l'histoire de la famille, mais, plutôt que la mienne.
Hein. D'ailleurs, c'est souvent un peu comme ça, voilà, on a quelque chose dont on a entendu parler, on peut éventuellement le retrouver sur les pages d'un roman. Mais il y a quelques semaines, avec ma collègue Bernadette Loison, nous avons déjà présenté votre ouvrage dans une émission intitulée « Tourne-page » assez rapidement. Malheureusement, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Ainsi, je serai donc seule face à vous pour vous poser quelques questions à propos de ce roman donc écrit à quatre mains dans la suite de notre émission. Mais tout de suite, une petite pause musicale. Écoutons la Séguédille de Carmen. Alors, nous venons d'entendre la Séguédille de Carmen de Bizet, musique qui aura son importance dans La vie au fond des yeux, roman co-écrit par Hélène Devanoise et Manuel Cordouan, dont nous parlons aujourd'hui. Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre roman. Pour moi, c'est une histoire forte qui va marquer son lecteur, sa lectrice que je suis, écrite dans les tons bien, bien, bien différents, hein. Alors, comment une telle idée vous est arrivée? C'est voilà la question qui m'a taraudée déjà avec Bernadette lorsque nous avons parlé la première fois de ce livre-là. Alors, comment l'idée est venue? Lequel de vous parle en premier? Hélène,
alors, je crois que c'est moi qui vais répondre. L'idée de base, Nicolas y faisait allusion tout à l'heure. Il m'avait demandé de relire son livre précédent et je pense que j'avais un œil un peu différent du sien, et notamment dans l'approche psychologique des personnages. Et c'est pour ça que je lui avais proposé de mettre en place un scénario qui implique une vision tout autre des personnages que simplement une histoire mise à plat, si on peut dire. Et j'avais envie de sentir des personnages vivre. Donc, à la limite, l'histoire me paraissait presque annexe par rapport aux ressentis et aux émotions de l'homme et de la femme mis face à face. Et l'idée de mettre un homme et une femme face à face, c'est d'une certaine façon imposée d'elle-même, puisque nous nous lancions dans cet exercice d'écriture. Il me paraissait évident que chacun d'entre nous pouvait user de ses spécificités, c'est-à-dire d'un côté un homme mais de l'autre côté une femme, pour rentrer dans une histoire qui pouvait montrer de façon claire ce que pouvaient être des sentiments, des pensées, des sensations, des émotions, etc.
Mais ça se ressent tout à fait. Est-ce que Manuel, vous pourriez parler des difficultés que ça a donné de mixer finalement ces deux tons très différent. Est-ce que vous vouliez pas changer éventuellement ce qu'Hélène aurait écrit en disant ben je l'aurais vu autrement ou je ne sais pas où ça.
Mais c'est-à-dire que ça commence pas exactement comme ça. Quand on écrit à deux, il est très important de bien s'entendre sur un scénario. C'est beaucoup plus important que lorsqu'on écrit tout seul parce que on est quand même on est à deux et les risques de se garer sont plus grands, disons, ou de ne pas se comprendre. Le premier gros travail, qu'après quand même quelques mois, ça a été quand même l'écriture d'un scénario. C'est d'abord la base. Il faut quand même se mettre d'accord, enfin, deux ou trois mois au moins quand même, parce que je vois Hélène là qui est sceptique. L'écriture, il faut quand même se mettre d'accord sur l'écriture d'un scénario. Elle a l'air dubitative, elle va dire pourquoi dans un instant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de se lancer dans l'écriture des chapitres, quand même construit un scénario qui a un petit peu été modifié après.
Parce que ça a l'air de couler de source, c'est ce que je voulais dire. Donc ça me paraissait tellement... On aurait dit que vous étiez tout le temps en train d'écrire côte à côte en disant « oui, ça, je le vois ça comme ça », parce que ça paraît tellement lisse, voilà, très bien écrit, hein, vraiment, j'aime beaucoup.
Mais ça, c'est parce qu'il est bien écrit, mais tu n'es pas d'accord sur l'écriture du scénario. Ça a pris un bon moment quand même.
Alors, si on veut dire les choses de façon tout à fait exacte, en fait, le scénario, c'est moi qui l'ai écrit. Ça m'a pris un mois. Ce scénario nous a servi de trame. Voilà. Et ce qui était très amusant, c'est que chacun d'entre nous savait exactement ce qu'il avait à faire rentrer dans son chapitre. Mais quand je dis qu'il savait exactement, il savait exactement quels étaient les points qui permettaient d'assurer le déroulé de l'histoire. Et en même temps, chacun était complètement libre de broder autour de ces éléments de base qu'on devait retrouver dans le chapitre. Et c'est ça qui était amusant. Et quand je disais que nous avions une part de curiosité à découvrir ce que faisait ce qu'allait écrire l'autre, c'est que nous connaissions l'histoire puisque le scénario était établi. Mais nous ne savions pas exactement quel allait être le caractère des gens, dans quel univers ils allaient vivre et quel allait être le... quels allaient être les petits éléments, si on peut dire, de l'histoire.
On peut dire que ça ne nous a pas posé beaucoup de difficultés.
Non, mais je me suis peut-être mal exprimé sur le scénario. C'est Hélène qui l'a écrit, mais justement, parce que moi, je n'avais pas l'habitude. Je ne sais pas écrire un scénario, je n'écris pas comme ça. Les précédents romans, je ne les ai pas écrits du tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai plutôt...
Et c'est dans ça que ça m'intéresse. À ce propos, je parlais de romans qui traitaient des sujets de votre famille, mais ce n'était pas du tout ça. Je crois que j'ai eu tout faux.
Pourquoi plus ou moins. Mais ce n'est pas directement autobiographique, c'est beaucoup de transposition. Non, ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on commence à écrire un roman. Il y a des gens qui écrivent une phrase et puis ils disent la deuxième phrase va venir, la troisième, enfin Aragon a écrit les Incipits sur la question, par exemple. Bon, c'est une chose que certaines personnes arrivent à faire. Il y en a d'autres, mais j'étais de cette catégorie-là, qui accumulent une documentation. À la fois une documentation peut-être avec des souvenirs tirés de la famille, si vous voulez, pourquoi pas, mais aussi des événements historiques qui ont bel et bien existé. Vous lisez les journaux, vous sélectionnez des épisodes historiques qui ont véritablement... Et puis, à partir de tout ça, vous essayez de faire plus ou moins une sauce, si vous voulez, qui prenne. Et puis vous arrivez, c'est vrai... plus difficilement, d'une certaine façon, à construire une histoire. Tandis que là, non. Là, c'est véritablement le scénario, donc sorti de la tête d'Hélène, donc sur lequel je vais quand même donner mon avis, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est à partir... Il y avait une trame à partir de laquelle nous sommes partis. Et c'est ça qui a supporté un peu l'écriture du roman. Il n'y avait pas, si vous voulez, un grand événement historique ou une métaphore à propos des tarots, comme sur la carte maîtresse, qui servait de. Vous voyez, c'est
Ah
tout
oui,
à fait
c'est
différent. C'est
extrêmement
véritablement
intéressant.
un scénario purement imaginé, quoi.
D'accord. Alors donc, comme je vous disais, le ton est vraiment différent selon que ce soit écrit par Hélène ou par vous, Manuel. J'aurais aimé que vous me lisiez un petit extrait, chacun à son tour. Je commence par Hélène, bien sûr. Donc voilà, jeudi 30 janvier 2014. Voilà, je vous ai juste entouré, la partie que j'aimerais bien que vous lisiez.
Pierre, tu ne m'as jamais rien dit, rien laissé deviner. Tu t'es bien gardé de la moindre allusion. Pourquoi n'as-tu pas été franc dès le départ? Bien sûr, nos relations ne seraient pas ce qu'elles sont maintenant. Je ne serais pas tombée amoureuse de toi, certainement pas. Ou probablement pas. Ou peut-être que si, malgré tout, je n'en sais rien. Mais comment as-tu pu garder un secret aussi lourd, aussi longtemps, quand je pense que tu es venue avec moi à l'hôpital? Tu as pu constater les conséquences de ton acte insensé. Je sais maintenant pourquoi tu ne m'avais jamais proposé spontanément de m'accompagner. Avais-tu l'intention de tout me raconter un jour?
Ah ben voilà, ça c'est écrit par Hélène et voilà un autre petit extrait écrit par Manuel. Voilà, pratiquement la même période.
Alors, je ne sais pas si je vais arriver à lire aussi bien qu'Hélène, parce que elle a quand
Allez.
même très
Ah
bien
oui,
lu, hein.
très doué, hein. Qui est entouré, hein,
Je ne
voilà.
sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé Isabelle très perturbée hier. Nous ne nous étions pas vus depuis quelques jours et j'ai été très désagréablement surpris. J'étais venu la chercher chez elle avec l'intention de lui proposer d'aller nous promener dans la forêt de l'Isle-Adam. La saison ne se prête guère à ce type d'excursion, mais j'avais envie de marcher dans la campagne après une semaine particulièrement chargée. Isabelle déambulait dans son appartement sans parvenir à se décider, alléguant qu'elle devrait plutôt consacrer ce dimanche après-midi à une visite à Xavier. Qu'est-ce qui t'a pris, ma chérie? Pourquoi as-tu si brusquement changé de comportement? C'est bien la première fois que je te vois réagir comme ça. Tu sais que je ne supporterais pas que nos relations se détériorent. Je tiens tellement à toi. Je tiens trop à toi pour me passer de toi. Je suis sûr que tu me caches quelque chose, que derrière tes silences se dissimulent des griefs que tu n'oses pas formuler.
Ben c'est très joli, hein, c'est bien. Hein. J'aime beaucoup quand mes invités lisent un peu de ce qu'ils ont écrit. Et en tout cas, on voit les deux protagonistes sont bien, bien amoureux. Hein. Ils s'aiment beaucoup. Et ces deux extraits donnent un petit aperçu du ton du roman, de vos deux façons de penser. Et que l'on s'aperçoit que dans cette histoire d'amour, les non-dits prennent des places considérables. Alors, comment avez-vous géré ça? Parce que j'ai l'impression, en préparant l'émission, je vous ai complètement installé dans le roman, effectivement. Bon, comment vous avez géré les non-dits? Parce que c'est pas facile de mentir, finalement.
On n'est pas dans un mensonge véritable, on est dans de l'omission. Les deux personnages sont sincères d'une certaine façon vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Ils sont sincères dans leurs sentiments et ils ont plus à cœur de ne pas heurter l'autre. Alors effectivement, on peut parler de mensonge dans la mesure où il ne s'ouvre pas totalement envers l'autre, mais plus par esprit de protection. Donc on ne peut pas dire qu'il soit dans une forme de malhonnêteté. C'est ça qui est
Oui,
très, très
d'ailleurs, ça
particulier.
n'était. Enfin, je ne pense pas qu'on le ressente ça comme ça. On ressent une souffrance terrible, surtout pour l'homme. Moi, je trouvais qu'il souffrait terriblement. Le rôle de la femme, finalement, est plus facile puisqu'elle ne le savait pas. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est mieux de savoir? Alors, qu'en pensez-vous,
Ben,
Manuel?
moi, je crois, d'abord, ces deux passages que vous nous avez fait lire le prouvent largement. Ces deux êtres s'aiment vraiment. Là, il ne se joue pas la comédie, je veux
Non,
dire.
non,
Ils s'aiment vraiment. Je veux dire, je fais allusion, parce qu'il y a certaines lectures sur les articles de presse auxquels vous avez fait allusion tout à
Ah,
l'heure qui laissent entendre.
j'ai pas trop aimé.
Mais parce
Bon,
que
enfin
voilà,
bref.
c'est pas
Mais...
du tout les liaisons dangereuses au sens où il y aurait une
Ah non, non.
stratégie, voilà, de deux
Non.
protagonistes. Non, ils s'aiment vraiment.
Non.
Simplement, le problème, c'est qu'ils sont pris par une histoire si vous voulez, effectivement, l'accident de voiture, la responsabilité donc de Pierre dans l'accident de voiture, qui est une chose dont Pierre a le sentiment que s'il le confie à Isabelle, ça va détruire leur amour. Et donc, c'est pas pour le plaisir de lui dissimuler quelque chose.
Non, parce que
Et de même, Isabelle, quand elle l'apprend et qu'elle ne lui dit
parce
pas qu'elle le
qu'Hélène
sait,
est
c'est...
Isabelle,
Mais...
sachant le.
Non, non, mais c'est pas non plus pour le plaisir de lui cacher quelque
Non, au
chose. C'est parce
contraire,
qu'elle veut, au contraire,
il veut
préserver leur
l'aider,
amour.
il veut l'aider,
Et
il
préserver
veut
leur
l'aider.
amour. Ils ont un... C'est
D'abord, il
ça,
veut
non?
les, d'abord, il veut l'aimer.
Ben oui.
L'aider, pardon. D'abord, la première chose que veut Pierre, c'est d'aider Isabelle,
Si vous voulez.
il se sent coupable. Et voilà, l'amour arrive comme un, voilà, comme toujours, on
Oui,
s'y
mais
attend pas du
ce que
tout.
je veux dire, si Isabelle n'aimait pas Pierre, quand elle apprend qu'il est à l'origine, enfin plus ou moins à l'origine, si vous voulez, de l'accident de son mari, elle dirait, bon, ben, ça suffit maintenant. Mais justement, elle l'aime. C'est ça qui est
Eh oui, c'est
intéressant et
ça.
qui fait un roman, si vous
Alors,
voulez.
il y a une rencontre tout à fait vraiment jolie à Milan. C'est le hasard pour Isabelle, organisée par Pierre. Et c'est une très belle rencontre, malgré tout. Et leur passage à la Scala est particulièrement beau et paraît tellement réel. Vous les connaissez, je suppose, la Scala, vous y êtes allé? Vous avez eu
Alors, je
cette
vais être
chance?
très sincère.
Oui?
Non.
Oh, vous n'avez pas de chance. Alors,
Alors,
il faut y aller. Alors, vous
non,
devriez y
non,
aller.
mais vous savez, il suffit d'une photo pour que
Ah,
l'esprit se mette à divaguer.
c'est
Et moi,
merveilleux.
il m'a suffi d'une photo de la
Voilà.
Scala pour
Oui.
m'imaginer.
J'ai eu de la chance et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais l'impression de m'y trouver. C'était
Oui.
tellement bien fait. Vos protagonistes ont vu ensemble Carmen. Et c'est pour ça que je vous propose pour notre deuxième pause musicale encore un autre extrait. Voilà, je n'ai pas choisi le titre, donc ça va être un peu le hasard de notre CD représentant Carmen. Écoutez Radio Grand Ciel au micro Elisabeth Couget dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Je reçois Hélène Devanoise, Emmanuel Cordouan pour vous présenter le roman coécrit C'est la vie. Il s'agit de La vie au fond des yeux. Alors, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qu'un malheur et un copieux sentiment de culpabilité rapprochent et l'éloignent à la fois. On n'a pas l'habitude ici de dévoiler les romans que nous présentons, mais j'aimerais beaucoup que l'un de vous deux raconte un peu l'histoire sans toutefois en dire trop. Manuel, peut-être, puisque tout à l'heure on parlait de la Scala et de éventuellement est-ce que vous y êtes allé, puisque c'est tellement bien décrit. En fait, pendant la pause musicale, vous m'avez donné un cours magistral de ce qu'on peut écrire. Sans y être allé, sans être allé à cet endroit-là, et voilà un exemple parfait pour ça. Alors, dites-moi, raconte, donnez le speech, comme on dit à la télévision.
Mais il me semble que c'est surtout Isabelle qui devrait raconter. C'est elle qui a fait la description de la Scala, donc c'est plutôt à elle de dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est comment l'idée m'est venue de trouver un prétexte qui suscite la rencontre réelle, donc de Pierre et d'Isabelle.
Elle est trouvée superbe. Hein?
Et sinon, sinon, ils auraient pu continuer aussi à écrire chacun dans leur journal, si vous voulez, faute de trouver un meilleur terme dans leur coin, mais ils ne se seraient jamais rencontrés.
Voilà.
Et ce qui l'a
Il fallait
permis,
bien qu'ils se rencontrent un
il
jour.
fallait
Voilà.
trouver quand même une raison pour qu'ils se rencontrent. Alors, Pierre essaye de trouver avec un de ses amis des moyens de rencontrer Isabelle, mais ça ne marche pas. Et finalement, ce qui le met sur le chemin, c'est la lecture simplement d'un article.
Oui.
Du monde du Figaro
Médical,
médical
oui.
à propos d'une machine qui permet de détecter les cancers. Et comme Isabelle est cancérologue, et ben voilà,
Voilà.
il apprend
C'est
ensuite
comme
qu'elle va
ça,
lui.
voilà, il
Voilà.
veut se rapprocher d'elle de toute façon. Vous en dites quelques mots finalement de l'histoire sans tout dire, enfin sans être trop.
Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'il m'importait tout à fait de faire rentrer le lecteur directement dans le cœur de l'histoire et directement dans les émotions. L'histoire a été bâtie à l'envers, si on peut dire, puisque le prologue même plonge le lecteur dans la désespérance d'Isabelle, et il a fallu, après ça, rebâtir le scénario de telle façon qu'on puisse arriver à comprendre pourquoi elle était dans cet état d'esprit et ce qu'il s'était passé par la suite. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, l'histoire s'est également enrichie des éléments que nous avons pu y mettre l'un et l'autre. C'est très difficile de la dévoiler, si on peut dire, puisque ce qui est important, c'est justement cet enchaînement de détails. Il n'y a pas de fait majeur à un moment quelconque, sinon cet accident qui est évoqué très rapidement dans le début du livre. Après ça, ce sont beaucoup plus un vécu à travers le temps. Et je vais reprendre une des paroles de Manuel de tout à l'heure. Plusieurs fois, il a fait allusion au fait d'écrire un journal. Peut-être que ça donne une impression de journal, mais c'est en aucun cas un journal. Ce sont bien des pensées de ces deux personnages face à une même situation à travers le temps. Voilà. Et le grand jeu de ce livre, c'était cette écriture en miroir, c'est-à-dire de regarder une situation donnée qui pouvait être une situation simple, comme le fait d'aller se promener un jour sur les bords de l'Oise, mais vécue par l'un et par l'autre. Et on s'aperçoit que chaque personnage a vraiment son caractère propre et son ressenti propre. C'était tout le jeu, en fait, de ce livre.
Alors, je voulais demander, est-ce que vous imaginez que sans cet accident, finalement, les deux protagonistes étaient prêts à rencontrer l'amour, puisque l'un et l'autre vivaient, je veux dire, à une période difficile sentimentalement. Ils auraient pu se rencontrer, pourquoi pas? Sans ça.
On peut toujours tout imaginer. On est quand même face à deux tempéraments qui semblent extrêmement différents, avec un homme qui a une vie, on peut dire, un peu volage, et une femme qui est plutôt dans une rigueur morale qui, a priori, l'empêchait d'aller voir ailleurs.
D'accord. Bon, je voulais juste te demander encore, peut-être vous avez quelque chose à rajouter?
L'accident
Oui.
a aussi l'avantage de dramatiser
Ouais,
la
c'est
situation.
ça.
Encore une fois, il suffit pas de mettre des beaux sentiments dans un roman
Non.
pour. Il faut aussi qu'il y ait une certaine forme de dramatisation qui rende justement l'expression de ces sentiments d'autant plus douloureuse, difficile, sincère, peut-être d'une certaine façon. Voilà, c'est ça tout le jeu romanesque, hein.
Alors, je voulais juste vous demander, vous y envisagez de continuer à quatre mains comme ça, éventuellement? Vous avez déjà une autre idée en tête?
Moi, j'avais envie d'ajouter quelque chose avant, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. La grande difficulté du roman à quatre mains, c'est tout de même que nous avons effectivement l'écriture en miroir,
Oui,
comme disait Hélène à l'instant.
c'est ça.
C'est-à-dire le fait de supporter l'altérité dans l'écriture. On dit souvent que l'écrivain est son premier lecteur, mais c'est un lecteur complaisant. Lorsqu'on écrit à quatre mains, ça ne se passe pas exactement de cette
C'est
façon.
pas tout à la même chose. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu dans nos studios. Christophe nous fait des grands signes. Coupez, coupez, il faut s'arrêter. On pourrait continuer largement. En tout cas, j'espère bien que vous allez continuer, que j'aurai l'occasion de vous recevoir ou ensemble ou séparément. Et merci, et merci, merci. Et à bientôt à nos auditeurs pour une prochaine émission, histoire d'en savoir plus.